Alors, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos Anuia. Quoi, les Amen. Voilà, donc ce cours est, comme nous disions à l'instant, l'avant-dernier cours de liturgie ou de théologie de la liturgie de cette année, puisqu'on est seulement au mois de mai. Et donc, c'est important de le situer toujours, comme je le fais, je crois. Il a situé ce moment consacré à une réflexion sur la liturgie, dans le temps liturgique où nous sommes, c'est-à-dire que nous venons les uns les autres de célébrer la Pâque, et nous sommes tous dans ce temps de Pentecôte, qui est le temps de préparation à la descente de l'Esprit, mais aussi le temps où on approfondit le mystère de l'Esprit à travers le cycle des lectures évangéliques du dimanche. Donc ça, on pourrait le faire, ça prendrait un petit peu de temps, mais j'attire votre attention là-dessus, sur le fait que chaque évangile du temps de Pentecôte peut être interprété par rapport au Saint-Esprit, à la place du Saint-Esprit, enfin le plus caractéristique de ces annonces évangéliques, ce ne sont pas seulement des textes, mais ces annonces évangéliques, ces événements évangéliques, les plus caractéristiques, et me semble-t-il, le dialogue du Christ avec la Samaritaine, où justement il est question clairement du Saint-Esprit. Clairement du Saint-Esprit. Et ça, c'est donc assez important. On voit justement par cet évangile de la Samaritaine, on voit qu'en fait que le motif principal de tout le temps de Pentecôte, c'est l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint n'est pas uniquement réservé pour le jour même de sa descente glorieuse, mais pendant tout ce temps, il est question de lui, il y a une méditation sur lui et une préparation ou une expérience de lui, en fait, mais toujours d'une manière un peu indirecte, jamais très 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 clair. Par exemple, c'est vrai que quand le Christ parle à l'apôtre Thomas et qu'il lui dit « Heureux ceux qui, sans avoir vu, croient », ça nous permet, nous, de voir une allusion au Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit, justement, que l'être humain peut croire en Dieu et croire dans le Christ sans avoir l'expérience palpable comme a eu l'apôtre Thomas. En fait, toute la tradition de l'Église, et principalement, pas uniquement, parce qu'elle repose beaucoup sur l'expérience corporelle, en fait, du Christ par la prière, par les apparitions qui ont eu lieu, mais quand même, une bonne partie de la tradition de l'Église peut se décrire comme l'expérience du Christ par le Saint-Esprit, la connaissance du Christ par le Saint-Esprit, la foi au Christ par le Saint-Esprit. En fait, toute l'expérience de l'Église depuis 2000 ans, enfin, si on fait commencer l'Église qu'à ce moment-là, parce qu'il serait peut-être intelligent de faire commencer l'Église avec la création, avec Abraham, avec l'ensemble, disons, de la vision biblique du monde et du salut. Enfin, principalement, disons, depuis la résurrection, toute la vie du peuple de Dieu est une vie qui n'a pas d'autre explication, qui n'a pas d'autre interprétation, qui n'a pas d'autre motif, pas d'autre interprétation que l'action du Saint-Esprit en elle. Et que l'acte de foi, le fait de croire en Jésus-Christ, justement sans l'avoir, par exemple, ni vu ni touché, est évidemment une manifestation du Saint-Esprit comme un miracle. Un miracle, nous savons bien, nous-mêmes, par notre propre expérience, que sans la grâce du Saint-Esprit, nous ne croirions pas. À moi, en ce qui me concerne, sans la grâce du Saint-Esprit, franchement, je ne croirais pas. Parce qu'il n'y a aucun argument qui me permettrait de croire en Dieu, de croire en Christ. Aucun argument, aucun raisonnement, rien ne pourrait me persuader ni de la résurrection, ni de l'incarnation, ni de la divinité du Christ, ni de rien de ce en quoi je crois actuellement, aucun raisonnement ne pourrait me persuader. Aucun. Donc je fais partie personnellement, et je pense ne pas être le seul, de ces personnes dont le Christ a dit « Heureux ceux qui, sans avoir vu, croient ». Et ce « heureux », « bienheureux », c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Le Christ, en fait, bénit à l'avance tous ceux qui, par le Saint-Esprit, croiront en lui. Il bénit l'œuvre du Saint-Esprit. Il bénit l'âge du Saint-Esprit. Il bénit la venue du Saint-Esprit, du Paraclet, sans lequel lui-même aurait, je dirais pas qu'il aurait agi vainement, si vous voulez, mais lui-même aurait réalisé une œuvre qui ne porterait pas tellement de fruits. Vous voyez, on sent bien cela, d'ailleurs. Après la résurrection, on sent bien la fragilité des apôtres et des disciples. On sent bien que sans le Saint-Esprit, ils n'arrivent pas à adhérer, ils n'intègrent pas le message du Christ, ils n'assimilent pas l'événement de la résurrection, ils n'arrivent pas à reconnaître même le Christ. Regardez, c'est très intéressant, ces disciples, je crois, qui se rendaient en week-end, comme on le fait maintenant, à Emmaüs, ils le disent bien, ils disent qu'à un moment, ils ont reconnu le Christ à la fraction du pain et qu'ils ont senti que leur cœur était brûlant à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc il s'agit bien d'une manifestation du Saint-Esprit. En fait, on se rend bien compte que tout de suite, la résurrection du Christ a été la porte ouverte à l'expérience du Saint-Esprit. Et même ces belles femmes porteuses de parfums qu'on a honorées à juste titre dimanche dernier, ces femmes-là, si vous voulez, quand elles ont réussi à dépasser la peur, la terreur, l'épouvante qu'elles ont ressentie devant le tombeau vide, elles sont passées de l'épouvante à la crainte de Dieu, c'est-à-dire à une connaissance supérieure. Et même celle qui a vu le Christ dans le jardin, tout de même, c'est assez étonnant qu'elle ait vu. Il s'est retourné, il l'a appelé par son nom, elle s'est retournée, et elle a reconnu en lui, finalement, quand même, le ressuscité. Ça aussi, c'était une action, ça veut dire que le Saint-Esprit était près du tombeau, que le Saint-Esprit agissait, que le Saint-Esprit faisait resplendir le Christ, le rendait reconnaissable, et que simultanément, il transfigurait le cœur et l'intelligence de cette femme pour lui faire reconnaître son Seigneur et son Maître. Alors qu'au début, on voit, c'est très intéressant, parce qu'au début, elle croit que c'est le jardinier. De même que les disciples d'Emmaüs, au début, ils ne voient pas qui c'est. Et donc il y a nettement un stade où, on va dire, sans l'action du Saint-Esprit, les gens ne voient rien, n'ont aucune connaissance du Christ, et par l'action du Saint-Esprit, ils le reconnaissent, ils le voient, elle identifie et se sentent même appelés par leur nom. Alors vous allez dire, oui, mais il n'y a pas un seul mot dans ces évangiles qui parle du Saint-Esprit. Alors bien sûr, on peut toujours dire que ben non, il n'y a pas question du Saint-Esprit puisqu'on n'en parle pas. Or ça, justement, c'est un peu l'objet d'un des cours que j'ai préparé ce soir. On va peut-être commencer par cela, au fond. C'est ce que montre assez bien le professeur Constantin Andronikov. Il montre qu'en fait, le Saint-Esprit est quelqu'un d'extraordinairement discret. Il fait tout, mais il le fait de manière tellement discrète qu'on peut arriver même à nier sa présence. C'est assez important, c'est assez caractéristique de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'elle est indispensable, elle est incontournable, mais elle est en même temps extraordinairement discrète, parce que, alors simplement il explique bien ça, mais je peux le dire dès maintenant, parce qu'en fait, il dit cela, que je trouve très, très juste, il dit le Saint-Esprit ne se révèle pas tellement, mais il révèle. Il révèle plus qu'il ne se révèle. Et c'est cette action révélatrice du Saint-Esprit qui signifie sa présence. Et nous-mêmes, nous ne venons, je pense, à l'Église que pour cette raison-là, que parce que, sans en être bien conscient, tout ceci est un peu confus pour nous, la plupart du temps, nous sommes quand même ceux qui, par le Saint-Esprit, ont la révélation que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Car ceux pour qui le credo de l'Église n'est pas seulement paroles qu'il faut dire, qu'il faut savoir dire par cœur, etc., mais que c'est un acte de foi personnel. Et c'est pour ça qu'il commence par la première personne, par « je crois ». Voilà, alors donc j'ai prévu ce soir, en fait, deux cours. En première heure, j'avais pensé faire l'inverse, mais finalement, on va faire comme ça. Le premier cours, c'est en fait une présentation de ce que dit le professeur Andronikov sur... Lui parle de la doctrine du Saint-Esprit dans certaines fêtes liturgiques de l'Église, certains moments importants, mais surtout certaines fêtes liturgiques. Hein. Et ensuite, le deuxième cours, moi, j'ai envie de dire plutôt de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Parce qu'en fait, il s'agit de deux manières différentes d'aborder le thème que j'ai choisi cette année, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la liturgie, ou la liturgie et le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit dans la liturgie, ou la liturgie dans la Saint-Esprit, enfin bon, le caractère pneumatologique, comme je l'ai dit, le caractère pneumatologique du culte chrétien. Soit on l'aborde, je l'ai fait quelquefois, en montrant que le culte chrétien exprime le dogme, la doctrine du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en fait, le culte chrétien est un credo, est un symbole de foi agi, mis en œuvre, pas sans multiples. Je pense que tout le monde comprend bien ça, mais on peut l'aborder d'une autre façon en disant que le culte chrétien, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Donc ici, il y a deux façons un petit peu différentes. Alors, la première façon, je la prends maintenant, donc c'est en suivant ce que dit le professeur Constantin Andronikov, qui était un professeur éminent de l'Institut Saint-Georges, et dans son livre qui s'appelle « Le sens de la liturgie », que j'ai cité en ma bibliographie, vous trouvez sur le site, qui a été publié en 2009 aux éditions du CERF, il y a tout un chapitre, qui est le chapitre 17, qui est consacré justement à l'Esprit-Saint dans la liturgie. Enfin, je renvoie d'ailleurs aux autres livres de Constantin Andronikov, c'est également en français, un livre qui s'appelle principalement « Le sens des fêtes » et qui a deux parties, « Sens des fêtes », premier volume, deuxième volume. Et ici, donc, c'est « Le sens de la liturgie ». Alors, qu'est-ce que fait notre bon professeur ? Moi, c'est vrai que je procéderai un peu différemment de lui, mais je m'appuie sur lui, donc je respecte sa façon de faire. Lui, il prend trois célébrations, trois fêtes, trois moments importants de l'année liturgique et du Saint-Évangile. Donc, puisque l'année liturgique, comme vous en êtes d'accord, je pense, ne fait pas autre chose qu'exprimer l'Évangile. C'est ça, la liturgie, c'est ça, c'est l'Évangile agi, c'est l'Évangile manifesté, c'est l'Évangile ouvert, et c'est l'Évangile dans toute sa puissance de salut. Donc ces trois moments sont lesquels il le dit donc au début de son livre, l'Annonciation, le baptême du Christ et la transfiguration du Christ. Et il se limite à ces trois événements. Moi, personnellement, je ne suis pas... J'irai plus loin, mais je ne sais pas si je pourrais le faire, j'aurai le temps. Je pense qu'il faut ajouter la résurrection et qu'il faut ajouter la Pentecôte elle-même et qu'il faut ajouter, comme je viens de le faire précédemment, c'est-à-dire le cycle des lectures du temps de Pentecôte, donc de l'évangile de Thomas au dimanche des Saints-Pères inclus. C'est-à-dire que le dimanche des Saints-Pères, c'est le dimanche qui suit immédiatement le jeudi de l'Ascension. Voilà. Donc je crois que si on commence à parler de la présence du Saint-Esprit dans la liturgie, on est plutôt débordé par les exemples qu'autre chose, y compris si on veut parler de la doctrine du Saint-Esprit, ce que fait M. Andronikov, parce que là, il ne parle pas de l'expérience du Saint-Esprit dans l'Église, il parle de la doctrine du Saint-Esprit exprimée par le culte de l'Église. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Alors, globalement, l'idée qu'il développe dans ce chapitre 17 de son livre, je l'ai dit déjà à l'instant, c'est cette idée qu'en fait, que le Saint-Esprit, tout en étant personne, une hypostase à part entière, comme nous le confessons, comme le Verbe, comme le Père, ça, on ne va pas revenir là-dessus. Donc tout en ayant cette identité hypostatique incontournable, est quand même celui, d'une part, celui dont finalement on ne connaît pas le nom, c'est ce que dit Saint Siméon, le nouveau théologien, en fond, on l'appelle Esprit, c'est une façon de l'appeler, c'est un nom qui est un peu approximatif, hein, puisqu'au fond Dieu est Esprit, on pourrait dire le Christ aussi est Esprit, vous voyez pas. Enfin bon, tout de même, bon, quand on le désire, on emploie ce nom-là, sans être bien sûr que ce soit son vrai nom. Et d'autre part, il a effectivement une manière de se comporter, le Saint-Esprit, qui est très, très discrète, et qui est d'autant plus discrète que, qu'en fait, il se distingue de ses dons. Alors, si vous voulez, ça se... Vous savez, tout cela, on a des cours de troisième année, je ne sais pas, donc vous devez savoir tout cela. De même que le Christ, si vous voulez, qui est la parole, le Verbe, le Logos du Père, se distingue de ses paroles, hein, des Logoi, des Logi, qui émanent de lui. De même, l'Esprit Saint, en tant que personne, en tant qu'hypostase divine, ne se confond pas, se distingue donc de ces énergies de la grâce qu'il communique, des dons, des charismes qu'il procure. Et donc quelquefois dans les textes liturgiques, c'est ce que montre le Saint-Nicomède, quelquefois le mot esprit est employé plutôt comme dans le sens de grâce du Saint-Esprit que pour désigner la personne du Saint-Esprit. Et donc ceci contribue, si vous voulez, à l'effacement du Saint-Esprit en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, si vous voulez, mais il s'efface derrière ses dons. Ça, c'est très, très caractéristique. Ça me rappelle un passage de la théologie, une conversation que nous avions avec le père Demetrius Stanilowé, où il disait qu'en fait, c'est assez, pour nous, les êtres humains, la question est très importante de nous intéresser à la personne plutôt qu'au don, au donateur plutôt qu'au don. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est vrai que comme il s'efface, il se retranche derrière ses dons, nous avons plus affaire à ses dons qu'à lui-même. Alors tout de même, la personne du Verbe, même si elle se distingue de ses dons, de ses paroles, même si le Logos se distingue des Logi, même si la parole avec un grand P ne se confond pas avec ses propres paroles. Tout de même, le Christ a une présence très, très évidente, très palpable, à cause de son incarnation surtout, hein, qui en fait quand même un homme accessible, un homme que les gens rencontrent dans la rue, à Capharnaüm ou ailleurs, et puis une personne divine qui a tout de même un nom très très précis, le nom de Jésus. Oui, c'est quand même assez précis. Il a un nom beaucoup plus précis quand il s'appelle Jésus, Christ, enfin Jésus, le nom de Jésus, ou Emmanuel. Bon, il a quand même un nom ou des noms qui sont vraiment très précis et que le Saint-Esprit n'a pas. Donc il y a vraiment une différence importante entre l'hypostase du Verbe et l'hypostase de l'Esprit en ce qui concerne non pas leur présence, parce que leur présence est certainement égale est égal, mais c'est le mode de leur présence, leur façon d'être, le mode de leur comportement, en quelque sorte, divin, qui est, de même que la présence du Père, si vous voulez, dans le monde. On ne peut pas dire que le Père soit absent du monde, quand même. Mais il est présent par le Verbe et par l'Esprit. Donc la façon d'être du Père est aussi une façon, il se retranche, il s'efface, tout en étant appelé Père, étant la source de tout, etc. Il se retranche derrière les deux hypostases, enfin au moins sur le plan de ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire de son action dans le monde. Nous ne pouvons pas dire que c'est comme ça dans la Trinité elle-même. D'abord, nous ne savons pas tout. et d'autre part, ce serait une erreur d'affirmer cela. Ça ne peut pas être affirmé de Dieu. Mais sur le plan de l'économie, c'est-à-dire l'action de Dieu dans sa création, il est clair que le Père ne nous est connu que par le Fils, ou il ne nous est connu que par l'Esprit. C'est pour ça que le Christ a dit qu'il voit le Fils, voit le Père, c'est-à-dire le Père se retranche derrière le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il soit absent, ça ne veut pas dire qu'il soit indifférent, Ça ne veut pas dire qu'il soit plus petit ou tout ce que vous voulez, mais c'est sa façon d'être. C'est sa façon d'être. Même au moment de la théophanie, puisqu'on va en parler, la façon d'être du Père est une façon extraordinairement discrète. On dit la voix du Père, mais la voix du Père, est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est ce que le Père parle? Mais si le Père parle, c'est par le Fils. Donc en fait, on a l'impression que c'est plutôt... c'est plutôt le Fils qui parle du Fils à ce moment-là. C'est assez mystérieux, cette question-là, d'ailleurs. Mais le Père en lui-même, si vous voulez, tout en ayant une présence incontestable, n'est pas vu. Vous savez qu'il n'est pas, montré sur les scènes d'icônes. C'est une erreur pardonnable. C'est une erreur de figurer le Père sur les scènes d'icônes. Il n'y a pas d'icône du Père, vous voyez. Donc quelquefois on a quelques icônes qui circulent dans nos églises qui sont pas très claires à ce sujet-là, mais ça n'a pas de raison d'être du point de vue théologique. Et de même, il n'y a pas d'icône du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Non, il n'y a pas d'icône du Saint-Esprit. En fait, c'est le Christ qui assume, si on peut dire, la présence iconographique et du Père et de l'Esprit. Qui voit le Fils voit le Père, mais également qui voit le Fils voit l'Esprit. Donc, alors oui, mais quand même, c'est la théologie trinitaire, les personnes sont égales. Oui, mais elles sont égales, mais ce n'est pas parce qu'elles sont égales qu'elles doivent être, interchangeables, d'une part, et qu'elles doivent absolument avoir le même comportement. Et donc là, on est vraiment dans la théologie trinitaire. Donc, Constantin Andronikov insiste beaucoup là-dessus, et il dit aussi, il montre aussi, je vais montrer par des exemples peut-être après, il montre également que les textes liturgiques ne s'adressent jamais au Saint-Esprit. Alors, ce qui est c'est un petit peu dur, parce qu'on va finir par nous dire, voilà, où est-ce qu'il est, votre Saint-Esprit, finalement, au bout du compte? Eh bien, Constantin Andronikov montre, c'est très facile, il suffit d'ouvrir les livres à la bonne page, il montre qu'en fait, le Saint-Esprit est toujours une troisième personne dans les textes liturgiques. Que ce soit nous, les croyants, qui en parlons, nous parlons de lui, donc d'un troisième, d'un tiers, mais ce n'est pas un tiers absent, c'est un tiers présent, ou que ce soit le Christ, c'est le Verbe du Père, quand il parle de l'Esprit, bah oui, il parle de l'Esprit comme d'un troisième. C'est très caractéristique, dans l'Évangile selon saint Jean, le Fils s'adresse au Père, clairement, mais on ne le voit pas s'adresser à l'Esprit. Il dit, le paraclet va venir, c'est-à-dire c'est un tiers, un saint tiers ou un tiers saint, pas une tierce personne, comme on dit, une tierce hypostase, qui a toute sa valeur, toute son importance, toute son égalité d'honneur et de glorification avec le Père et le Fils, mais qui est un il. Donc une personne dont on parle comme d'un tiers présent, c'est une personne très très discrète. Regardez, dans une réunion de famille ou d'amis, en principe, nous nous tournons les uns vers les autres, on dit « Comment vas-tu? Comment allez-vous? Et les enfants, etc. » Enfin bon, nous nous intéressons les uns aux autres en nous regardant en face, dans les yeux, et en nous parlant les uns aux autres. Mais il y a toujours des personnes très très discrètes à qui personne ne parle, qu'on oublie de présenter, qui n'ouvrent pas la bouche, qui mangent en silence, qui sont arrivés derrière les autres, je ne dirais pas qu'ils font tapisserie dans la réunion, mais personne ne leur parle, les gens ne pensent même pas à leur parler, tellement ils sont discrets, et eux ne pensent pas à parler, parce qu'au fond, ils n'ont rien à dire, ou ils attendent qu'on les interroge, ou bien ils sont timides, un petit peu, mais ils sont quand même là, donc le Saint-Esprit, c'est souvent là, et c'est beaucoup plus, bien sûr, comme je l'ai dit à l'instant, c'est beaucoup plus qu'une présence timide dans une réunion de famille, puisque le Saint-Esprit, par sa présence discrète, est en fait la lumière dans laquelle on voit et le Fils et le Père. Donc c'est une manière extraordinaire d'être discrète, parce que il a la discrétion d'une lumière éclatante, mais qui ne s'éclaire pas elle-même. C'est très curieux, c'est pas facile de parler de ces choses-là, mais pourtant c'est assez évident. Il est la lumière dans laquelle nous voyons la lumière. Et Mais souvent, quand on dit Dieu est lumière, nous nommons ici le Fils. On dit le Fils est lumière, le Verbe est lumière. Bon. Mais en fait, lumière est le Père, lumière est le Fils, et lumière est l'Esprit. Mais l'Esprit lui-même, il a une façon d'être lumière qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il est la lumière dans laquelle on voit les autres comme lumière. Donc si dans cette réunion de famille, je prenais comme exemple, il y avait effectivement une personne toute timide dans un coin, ce sera en même temps la personne, quoique discrète, la personne indispensable. La personne sans laquelle personne ne pourrait regarder l'autre. La personne sans laquelle personne ne pourrait parler à l'autre. La personne sans laquelle il n'y aurait absolument aucun vis-à-vis entre qui que ce soit. La personne sans laquelle il n'y aurait aucune communication dans ce groupe de famille. Et donc la fête de famille serait totalement ratée, évidemment. Puisque la communication ne passerait pas, la communion ne passerait pas. Donc c'est l'hôte. C'est un peu, vous savez, ces hôtes invisibles qui sont là, qui ont tout préparé, qui voient si tout le monde a à manger, qui sont derrière, qui sont debout pendant que tout le monde est assis à manger, qui passent les plats, qui regardent si les domestiques sont bienvenus, ils font tout pour que tout le monde soit content, et eux-mêmes, on ne les voit pratiquement pas. Et c'est vis-à-vis, justement, ils allument la lumière, ils passent les plats, c'est vraiment, l'Esprit Saint est vraiment un esprit de service et de dévouement, de sacrifice de soi qui est tout à fait magnifique. Et c'est pour ça que certains théologiens orthodoxes, comme Constantin Andronikov lui-même, qui reprend beaucoup d'expressions chez Père Serge Bulgakov, parle d'une kénose de l'esprit. Vous savez que le terme de kénose est employé, si je ne me trompe pas, dans l'épître aux Philippiens, à propos du verbe. On dit que le verbe s'est dépouillé de lui-même, et kénosen, et afton. Donc on parle de la kénose du verbe pour nommer cette façon dont le Fils dans son incarnation ne réclame aucun honneur divin, ne réclame aucune gloire divine, se dépouille de toute gloire à laquelle il a pourtant droit, mais il ne réclame absolument, il n'a aucun droit, il n'a aucune prérogative divine, et il s'efface complètement, et il se fait passer justement pour le serviteur, il lave les pieds des apôtres, etc. Et finalement, il monte sur la croix, ce qui est donc l'abnégation, le dépouillement suprême. Donc ce dépouillement du Verbe trouve son... pas son écho, si vous voulez, c'est pas exactement ça, mais son parallèle, sa symétrie, dans un certain dépouillement de l'esprit. Mais et le Verbe et l'esprit, dans leur dépouillement, demeurent Dieu, et en tant que Dieu, sont absolument tout-puissants, sont absolument souverains, sont absolument glorieux, sont absolument créateurs, sont absolument vivifiants, sont absolument sauveurs. Vous voyez, mais ça, c'est la façon d'être de Dieu. Ça nous étonne beaucoup, nous les hommes, parce que nous, quand nous voulons rendre service à quelqu'un, nous faisons ça de manière extrêmement indiscrète. On n'entend parler que de nous, nous faisons du bruit, nous entendons tomber les chaises, nous ouvrons les portes de la voiture, nous claquons les portes de la voiture en arrivant. Enfin, nous faisons vraiment remarquer, tout le monde sait que nous sommes là, que nous avons rendu service. Bon. Mais Dieu, non. Dieu a une façon d'être qui est tellement... Notre Dieu est une divinité effacée, en fait. Effacée et extraordinairement présente dans son effacement. Enfin, c'est pas complètement paradoxal. Donc ça, c'est beaucoup montré. Et alors justement, Monsieur Ronikov, il prend, par exemple, dans le mystère de l'Annonciation, il cite les passages les plus caractéristiques, qui ne sont pas très nombreux, d'ailleurs. C'est la remarque qu'on peut faire, c'est dans la fête de l'Annonciation, qui est quand même... C'est une fête pneumatologique, tout de même. C'est par l'Esprit Saint que la Vierge devient féconde. Il est quand même le personnage principal, pratiquement, de cette histoire. Eh bien, il est très peu nommé. Et d'ailleurs, ça va loin, si Andronikov ne le dit pas, mais je me permets de le dire, c'est que vous savez que le lendemain d'une fête, il y a toujours la synaxe du personnage principal. Par exemple, le lundi de Pentecôte, on dit que c'est le lundi du Saint-Esprit. Eh bien, le lendemain de l'Annonciation, c'est la synaxe de l'archange Gabriel, et non pas la synaxe du Saint-Esprit. Et le lendemain de la fête de la théophanie, du baptême du Christ, eh bien, ce n'est pas non plus la fête du Saint-Esprit, c'est la synaxe du précurseur, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas me tromper. Donc, ça veut dire que dans plusieurs de ces cas, vous voyez, le personnage qui devrait, le personnage, excusez-moi, oui, on va dire personnage entre guillemets, qui devrait être mis à l'honneur, eh bien, n'est pas le Saint-Esprit, mais est-ce, bon, quelqu'un d'autre, très bien, évidemment, parce que là, personne n'a rien contre l'archange Gabriel, c'est quelqu'un de très bien, bon, mais c'est pas ça la question, mais moi j'avais compris que c'était plutôt le Saint-Esprit qui était le personnage principal, et c'est lui qui opère la fécondation de l'humanité, et non pas l'archange. L'archange Gabriel n'est que le témoin, le médiateur, le messager, enfin, oui, bon. Donc oui, c'est pour montrer que quand même, ce bon Saint-Esprit, il a tout de même une discrétion extraordinaire, pas que les chrétiens eux-mêmes, dans la façon de gérer le culte, soit ils ont été ignorants, soit ils ont manqué d'amour pour le Saint-Esprit, soit ils ont été, je sais pas, mauvais théologiens, ou à la limite de l'hérésie, je sais pas quoi, bon, soit ils ont senti que c'était ça qu'il fallait faire pour le Saint-Esprit, qu'il ne fallait pas être en contradiction avec le Saint-Esprit, il fallait le laisser être tel qu'il est, c'est-à-dire extraordinairement discret. Donc, dans la fête de l'Annonciation, eh bien, la place du Saint-Esprit est une place fondamentale. Dit Monsieur Ronikoff, il dit c'est le Saint-Esprit a une action qui est vraiment pratiquement identifiée avec la toute-puissance divine. Hein, c'est la phrase qui est dite aux petites vêpres, qui est une paraphrase de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 35. L'esprit du Dieu très saint viendra sur toi, la puissance du Seigneur te couvrira de son ombre. Mais là, ce que veut dire M. Andronico, parce que la façon dont on parle du Saint-Esprit ici, on parle de l'Esprit de Dieu, on ne dit pas l'Esprit Saint. On le nomme pas en tant que personne, on le nomme en tant que puissance divine. C'est ce qu'il dit, la puissance du Seigneur. Qu'est-ce que la puissance du Seigneur en tant que figure de style? La puissance du Seigneur, c'est ce qu'on appelle une périphrase. Et une périphrase, ça remplace le nom exact de quelqu'un. Par exemple, si on dit le candidat à l'élection présidentielle, c'est une périphrase pour nommer le candidat en question, là. Ou bien, si on peut dire, c'est un groupe de mots qui remplace le mot. Donc, au lieu de dire l'Esprit Saint en personne, on dit la puissance du Seigneur. Mais cette périphrase, en fait, ne désigne que ça, que son énergie. Et donc, ici, on a, lui qui est net, c'est que la grâce du Saint-Esprit est mise en avant et la personne du Saint-Esprit est un peu en retrait. C'est pour ça qu'il dit que l'Esprit Saint ici n'est pas personnalisé, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est pas la même façon de dire que de dire l'Esprit Saint. Vous voyez? Et ça, Bulgakov a montré ça aussi en général, il montre qu'il y a des différences dans la façon de s'exprimer. Quelquefois, on parle vraiment du Saint-Esprit en tant que personne, quelquefois, on parle des. La puissance du Saint-Esprit, les énergies du Saint-Esprit, mais lui en tant que personne, on le laisse dans une position effacée. Cela dit, donc en tant qu'action de Dieu, donc c'est une action de Dieu, un agir divin, une puissance de Dieu, comme c'est dit ici. Alors effectivement, il a des effets tout à fait caractéristiques qui montrent quand même qu'il est Dieu, hein, puisque il produit l'habitation dans la Vierge de la plénitude de la divinité. Hein, c'est dit. C'est dans les textes liturgiques, en toi habite corporellement la plénitude de la divinité par la bienveillance du Père éternel et par l'opération du Saint-Esprit. Ça, c'est un sticker, c'est-à-dire un des versets de la litie, je vous le relis, en toi, on s'adresse à la Vierge, ça ne s'adresse pas au Saint-Esprit, en toi habite corporellement la plénitude de la divinité, ça c'est encore une périphrase. On ne dit pas le Saint-Esprit, par la bienveillance du Père éternel et par l'opération du Saint-Esprit. Ah, quand même, on finit par le nommer. On dit bien que c'est l'opération du Saint-Esprit qui agit lui-même en tant que personne. Il est un petit peu discret. Et Voilà le, un verset sur l'apostille suivant qui dit « Le sein d'une Vierge reçoit le Fils, l'Esprit Saint le couvre de son ombre, le Père du haut des cieux s'y complaît. » Donc là, l'Esprit Saint est nommé en tant que dans la vision trinitaire en fait, de l'action. Alors ça, donc, Monsieur Andronikov souligne ça. Et c'est aussi une des façons du Saint-Esprit d'être laissé dans sa discrétion, c'est quand il est nommé en tant que personne, il est toujours nommé avec la Trinité. Il n'est jamais nommé comme personne, enfin, il n'est jamais, rarement, en tout cas, on va peut-être trouver des exemples contraires, il est rarement nommé en tant que personne pour lui-même. On va le nommer comme ça, mais dans la Trinité. Alors que le Fils, quelquefois on parle du Fils en lui-même, on finirait presque par oublier que ce fils a un père, si le mot fils n'était quand même pas un mot clair. Bon. Et vous savez très bien qu'il y a des chrétiens qui ont oublié, à certaines époques, qui n'ont pas su que l'Esprit Saint existait. On le sait par les Actes des Apôtres, je crois. Il y a un passage des Actes des Apôtres où les apôtres viennent dans je ne sais plus quelle ville, par exemple, pour retrouver les textes, et ils leur disent aux gens, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et les gens le regardent avec des yeux ronds, en disant, bon, on n'a jamais entendu parler de ça. Et donc, à ce moment-là, ils ont été baptisés de manière un peu approximative, ils ont été baptisés en Christ, dans le nom de Jésus, enfin, c'est des baptêmes un petit peu sommaires, bon, et du coup, les apôtres leur imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui se considéraient comme chrétiens, et qui n'est pas du tout conscient du Saint-Esprit. Vous savez que ça existait avant près d'autres exemples de communautés chrétiennes importantes qui ont laissé le Saint-Esprit non seulement dans une place discrète, mais dans une place carrément secondaire. Secondaire vraiment, presque une infériorité du Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils. Pour ça, c'est encore une autre question, mais c'est pour dire que, à force d'être discret, il faut se méfier, parce que quand vous êtes trop discret, on finit par vous oublier. Et donc, c'est un peu ça le problème du Saint-Esprit, c'est que celui, on a fini par oublier qu'il est Seigneur, que sans lui, il n'y a rien que tout. Parce que ça, je redirai peut-être plus tard, que le but de l'œuvre du Christ, c'est la promotion du Saint-Esprit. C'est ça le but de la résurrection, le but de la Pâque, c'est que l'Esprit règne, c'est-à-dire le royaume. Bon, mais ça n'apparaît pas dans les textes. Et justement, Andronikov réfléchit beaucoup là-dessus. Il se demande pourquoi est-ce que les offices chrétiens sont si réservés par rapport au Saint-Esprit, alors que le but de l'œuvre du Christ est le don du Saint-Esprit. Alors donc, il y a toute une réflexion là-dessus. On peut y revenir. Il donne d'autres... Oui, il montre, en fait, si vous voulez, que dans la paix de l'Annonciation, ben, vous pourrez reprendre les textes vous-même, si vous voulez, en prenant le ménologe à la date du 25 mars, vous retrouverez vous-même les textes et vous verrez qu'en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, son action créatrice, par exemple, son inspiration prophétique, son action de sanctification, ou de purification, c'est-à-dire que ce sont ces œuvres, ces opérations qui sont mises en valeur dans l'office de l'Annonciation. Par exemple, la septième ode du canon, elle a venu en moi du très Saint-Esprit, a sanctifié mon âme, purifié mon corps, elle a fait de moi un sanctuaire renfermant Dieu. Alors, cette phrase, vous allez dire, bah, justement, elle nomme le Saint-Esprit quand même. Hein. Mais le Saint-Esprit, vous voyez, il est nommé ici comme, incontestablement comme personne, tout de même, comme hypostase, mais c'est pour mettre en avant ses dons de sanctification, de purification et d'habitation. Alors, cette action sanctifiante de l'Esprit, elle est extrêmement importante. Tout ce que je dis là, si vous voulez, c'est pas du tout pour minorer, vous le comprenez bien, la place du Saint-Esprit, mais c'est pour dire que le Saint-Esprit est glorifié d'une certaine façon quand même. Il est glorifié par ses dons, par son opération, par ses effets, si je peux dire, et les effets les plus importants sont ceux-là que j'ai dit, je crois. Donc le don prophétique, l'inspiration, la sanctification, la purification et la présence spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui réalise la présence du Christ chez les hommes croyants. Alors, pour terminer sur ce chapitre de la de l'Annonciation, M. Andronikov souligne quand même quelque chose qui est très important, qui est l'affirmation dans l'Office de l'Annonciation, l'affirmation d'un élément doctrinal très très important, qui est la consubstantialité trinitaire. Vous savez que nous disons dans la fin du symbole de Nicée, Constantinople, c'est-à-dire la deuxième version, la version 381, je crois Saint-Esprit, qui, avec le Père et le Fils, reçoit même gloire et même adoration. C'est extrêmement important, c'est une affirmation dogmatique fondamentale qui est issue du deuxième concile œcuménique, tout de même, et par laquelle, justement, on veut souligner que l'Esprit-Saint, donc, c'est appelé en grec l'égalité d'honneur, l'égalité d'honneur de l'Esprit avec le Fils et avec le Père. Or, ça, justement, là, dans la cinquième ode du canon de l'Annonciation, où il est dit, c'est la Mère de Dieu qui a la parole ici, « Comment concevrais-je le Verbe qui est sans commencement, comme le Père et l'Esprit ?» Donc ça, c'est une expression du dogme chrétien qui est très très claire, et qui montre pour conclure quand même que la célébration de l'Annonciation a, comment dire, un contenu doctrinal et un contenu dogmatique tout à fait satisfaisant, même si c'est relativement court, il y a pas beau, les passages sont pas très longs, le dialogue de l'archange Gabriel avec la Mère de Dieu, il parle du Christ, il parle du Père, etc. Mais il parle assez peu de l'Esprit, mais enfin, le peu qu'on en parle, ce sont des affirmations quand même extrêmement, extrêmement importantes et qui sont tout à fait cohérentes avec le dogme général de l'Église. Bon. Voilà, mais comme je le disais tout à l'heure, comme ça se voit ici, dans toute cette fête-là, jamais, jamais, jamais on ne parle au Saint-Esprit, jamais on ne le... Et dire plus loin, le professeur Andronikov redit ça, il dit après pratiquement la seule prière que nous connaissions, enfin, dans la liturgie en tout cas, dans la liturgie, dans le typicum de la liturgie, la seule prière que nous connaissions qui soit adressée au Saint-Esprit, c'est la prière Roi Céleste Consolateur. Oui. N'en connaissons pas d'autres. Alors, dire ça, c'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a bien d'autres prières, par exemple, toutes les prières qui sont adressées, qui sont écrites par Saint Siméon, nouveau théologien, les hymnes de Saint Siméon, nouveau théologien, beaucoup d'entre ces hymnes sont adressés au Saint-Esprit de manière directe. Alors, ça a été, à tort ou à raison, je ne sais pas, l'évêque Jean Kowalewski, quand il a fait son espèce de redécouverte de la liturgie occidentale, des adaptations très, très riches et très belles, d'ailleurs, qu'il a faites avec son frère Maxime, il a introduit, dans la célébration de la Pentecôte, il a introduit une partie de l'hymne de Saint Siméon, le nouveau théologien, qui dit, s'adressant au Saint-Esprit, « Viens, lumière inaccessible, viens, esprit et vie, et haleine mienne. » Mais cette hymne de Saint Siméon, si vous voulez, elle ne fait pas vraiment partie du typicum de l'Église. Elle a été introduite à ce moment-là par un évêque génial, si vous voulez, mais bon, c'est pas absolument normatif. Si on suit la norme générale de l'office liturgique, du typicum, il n'y a pas de prière adressée au Saint-Esprit. Bon. Alors la deuxième, donc vous voyez déjà un petit peu comment ça se situe, hein, ce qui, si vous voulez savoir. Parce qu'on dit, c'est important quand même, on dit souvent que la théologie de l'Église est exprimée par la liturgie, par le culte. Ben, c'est vrai, mais donc la question qui est là, c'est est-ce que le culte chrétien, pour ce qui est de la fête de l'Annonciation, est-ce qu'il explique vraiment, vraiment le dogme de l'Église? C'est ça que nous avons envie de savoir. Alors, la réponse est oui, je viens de le dire, même si cette expression est faible, mais... Dans le credo, c'est pareil. Le credo, si vous regardez les proportions du credo, la partie consacrée au Père est microscopique, il y a deux lignes. La partie consacrée au Christ est gigantesque, il y a un paragraphe entier, avec avant, pendant, après et tout. Et il reviendra, enfin, jusqu'à la fin des temps. Et puis après ça, il y a trois lignes pour le Saint-Esprit, et deux lignes et demie pour l'Église. Donc c'est un texte qui est très... d'une certaine façon, du point de vue du plan, de la composition, très déséquilibré. Très déséquilibré, parce qu'en fait, comment dire, la préoccupation de l'Église ancienne portait principalement sur la personne du Fils. C'est ça qui était contesté. Encore qu'il y a eu des contestations très graves, vous le savez très bien, à l'époque des pneumatomaques, qui avec un nom pareil ne peuvent que être des gens affreux, bien entendu. Les pneumatomaques étaient des gens horribles qui niaient la divinité du Saint-Esprit. Mais bon, ça c'est une chose. L'arianisme, qui a été la négation de la divinité du Christ, est une crise beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Donc si vous voulez, peut-être que les textes liturgiques, comme le credo, reflètent le point d'impact, disons, de la controverse. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que c'est fondamental, parce que si quelqu'un accepte de la divinité réelle et l'humanité réelle du Christ, il va accepter forcément l'enseignement du Christ, parce qu'on ne va pas contester Dieu. Donc c'est vrai que, mais si quelqu'un ne peut pas reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, tout ce qu'il va dire va être, ça va être l'opinion d'un grand personnage, un grand initié, un grand philosophe, un grand sage, si vous voulez, mais enfin, ça n'aura pas de valeur péremptoire. Donc c'est pour ça que la défense, si je peux dire, ou la glorification de la divinité du Christ et de la divinité réelle du Christ, pas la divinisation, mais la divinité du Christ et son humanité réelle, c'est ça qui est fondamental. C'est fondamental. Si on touche à ça, il n'y a plus de christianisme. Oui, c'était pour ça, si vous voulez, aussi que. Mais quand même, c'est une opinion, c'est un peu aussi, je crois, que l'opinion de professeur André Nicor. Moi, je trouve qu'il y a quand même, dans la pratique de l'Église, la pratique culturelle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce cours cette année, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même une conscience un peu faible de la place du Saint-Esprit et de son rôle. Je trouve que notre conscience pneumatique ou pneumatologique n'est pas très costaude quand même. La preuve en est que dans le temps liturgique où nous sommes actuellement, le temps de Pentecôte, la ferveur se relâche beaucoup. Dès qu'on est passé de Pâques, dès qu'on est sorti de la semaine radieuse, on est après Pâques, quoi, oui, on est après Pâques. Mais on ne se rend pas compte que cet après Pâques est un temps exceptionnel, c'est peut-être le temps le plus important. En fait, c'est le temps à laquelle la Pâque nous a ouvert la porte, et qu'il est le temps pour nous préparer au règne de Dieu, c'est-à-dire à la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos communautés. Et en fait, nous nous investissons pas tellement, ce serait la façon de nous investir, ce serait d'être beaucoup de conserver la joie pascale jusqu'au bout. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris deux, trois choses dans l'expérience de l'Église. D'après ce que j'ai compris, c'est la joie pascale qui est le siège, en quelque sorte, ou le support, ou la connexion avec le Saint-Esprit. Et si nous voulons faire l'expérience du Saint-Esprit, demeurons dans la joie pascale. Voilà, pour résumer. Donc c'est la joie pascale qui ouvre à l'expérience du Saint-Esprit, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que la joie pascale est en elle-même déjà une manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Enfin, je voulais le dire plus tard, en disant que la fête de Pâques est quand même une fête du Saint-Esprit, mais bon, on va dire ça un petit peu plus tard, quand même, je regarde l'heure, j'allais avancer, oh là là, le temps est passé déjà. Bon. Alors donc, ce que dit le professeur Andronikov, il le dit pour aussi la théophanie, qui pourtant est une fête assez évidemment pneumatologique, pneumatocentrique, mais en fait il dit que dans la théophanie on insiste beaucoup sur la manifestation trinitaire, je pense que vous êtes d'accord, et il dit que le Saint-Esprit, alors là pour le coup il apparaît, enfin il apparaît, on dit, sous forme de colombe. Donc, sa présence est désignée par un symbole. C'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. La colombe n'est pas l'icône du Saint-Esprit. La colombe n'est pas la photo du Saint-Esprit. La colombe n'est pas le portrait du Saint-Esprit. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Mais bon. On peut lâcher dans les églises. Il paraît que ça se faisait. à une époque, au moins la Pentecôte, j'adorais faire ça, c'est extraordinaire. On lâchait des colombes blanches dans les églises, c'est génial de faire ça. Mais ce ne sont que ce n'est qu'un symbole magnifique. La présence du Saint-Esprit, c'est autre chose, vous voyez. Or, finalement, dans la fête de la Théophanie, on dit l'Esprit Saint sous forme de colombe, papa, attestait. Bon. Alors, bien sûr, il nous dit bien que qu'il est nommé quand même dans l'égalité des personnes, bien entendu. Hein. Il est aussi présent comme nuée aussi, mais enfin, c'est pareil, c'est encore un symbole. Et en revanche, alors ça c'est important, il est nommé à travers ses dons de sanctification. La grande prière, malheureusement pas le temps d'analyser tout cela ensemble, la grande prière de consécration de l'eau, pas de bénédiction de l'eau, mais de consécration de l'eau, de sanctification de l'eau, est une prière qui donne, qui désigne la place du Saint-Esprit par son action, hein, parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit est connu par son action, par ses énergies, par ses opérations. Et donc, effectivement, il y a une phrase qui est intéressante, d'ailleurs, qui est une des prières. On dit, à propos c'est dans la litanie, je peux pas reprendre tout ça, mais je vous renvoie au texte liturgique de la Théophanie, donc c'est dans le ménologe du mois de janvier, lisez vous-même tranquillement l'office, et vous verrez que dans la litanie, il y a ces paroles qui sont données, pour que leur soit donné, on parle de l'eau, que pour que leur soit donné la grâce de la rédemption et la bénédiction du Jourdain, prions le Seigneur, d'accord? Ensuite, pour que nous soyons illuminés par la lumière de la connaissance et de la piété, par la venue du Saint-Esprit. Bon, c'est une sorte d'épiclèse quand même là, hein, donc on invoque la venue, la descente du Saint-Esprit sur l'eau, d'accord? Et autre prière litanique, pour que nous soyons jugés dignes d'être remplis de sanctification en buvant de ces eaux, par l'épiphanie invisible du Saint-Esprit. L'épiphanie, ça veut dire la présence. La présence et la manifestation. Donc là, tout de même, si vous voulez, il y a une orientation de toute l'attention des croyants vers l'action du Saint-Esprit qui sauve, qui illumine et qui sanctifie. Et puis, alors, ça c'est dans la prière, justement, le prêtre ou l'évêque qui dit cette prière dit « Rends-toi présent maintenant par la venue de ton Saint-Esprit ». Et donc c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est très clair, il est au service du Fils. Donc il va se manifester comme celui qui rend présent le Fils. Bon, mais il se donne lui-même, par exemple c'est dit dans le Tropaire, qui dit « La grâce de l'Esprit est donnée invisiblement à ceux qui puient de cette eau ». Et ici il y a quelque chose qui est intéressant, que souligne le monsieur Andronikov, c'est qu'en fait le Saint-Esprit rend présent le Christ, et le Christ est celui qui donne l'Esprit. Par exemple la prière dit « La grâce de l'Esprit est donnée invisiblement par le Christ à ceux qui puient de cette eau ». Donc il y a une sorte de réciprocité du Fils et de l'Esprit exprimé dans les prières de consécration de l'eau, mais bon, c'est pareil, le Saint-Esprit est là comme une présence très, très discrète. Il est aussi celui qui rend témoignage à la divinité. Il est et donc il conclut que en fait, l'Esprit dans nos textes liturgiques est généralement présenté comme une grâce accordée par le Fils. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus présent par ses énergies, par sa grâce, par ses dons que par lui-même. Et alors je peux le résumer parce que je peux reprendre le résumé que fait M. Andronikov. Les dons du Saint-Esprit sont exprimés justement dans le canon des matines de la Théophanie. D'abord, le premier des charismes, c'est celui de l'adoption, ou je dirais plutôt de l'affiliation. Enfin, monsieur Andronikov dit l'adoption, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'affiliation, c'est dans la troisième mode, la prière qui est dit, c'est « Toi qui jadis étais stérile », s'adresse à l'Église, « Réjouis-toi en ce jour, Église du Christ, car par l'eau et par l'esprit, des fils te sont nés. Donc il ne s'agit pas du tout d'adoption, mais il s'agit d'engendrement spirituel. Une fois de plus, là, M. Andronikov, je me permets, avec tout le respect que je lui dois, d'apporter une critique à ce qu'il dit, parce qu'on confond, surtout dans le langage de l'Église, on confond deux réalités très différentes. L'adoption, qui est une notion juridique, par laquelle quelqu'un prend le nom d'une personne, entre dans une famille, alors qu'il est déjà né, et l'engendrement, dont parle le prologue de l'Évangile selon saint Jean, qui est tout à fait autre chose, ça consiste à être né véritablement, conçu véritablement d'en haut par l'Esprit du Père. Alors c'est ça qui se passe dans le baptême, et c'est ça qui se passe grâce à l'eau bénie ici, vous voyez, car par l'eau et par l'Esprit des fils te sont nés. Et même, alors, je ne vais pas parler du baptême trop longtemps, si vous voulez, mais notre conception du baptême, du sacrement du baptême, c'est exactement celle-là. Nous pensons que les enfants ou les adultes qui sont baptisés ne sont pas adoptés par le Christ, hein. Ils sont engendrés dans le Christ par l'Esprit du Père. Voilà. Deuxième charisme, c'est celui de prophétie, conséquence de la purification, que donne à son tour la vision spirituelle. Alors ici, d'ici la quatrième ode, le prophète purifié par le feu de la contemplation mystique élève une voix que fait retentir l'Esprit. Donc ça, c'est l'Esprit prophétique, c'est l'Esprit qui donne aux croyants de parler de Dieu, de nommer Dieu, de chanter Dieu. Troisièmement, un autre charisme est celui de la purification de l'exorcisme baptismal. Ça, c'est l'ode suivante, l'ode 5, donc. Laver du venin de l'ennemi par la purification de l'esprit. Hein, donc l'esprit est celui qui exorcise le malin, d'accord? Et puis quatrièmement, le quatrième don qui est nommé dans cet office de la théophanie, c'est le don de la palingénésie. La palingénésie, c'est du renouvellement. Renouvellement, et voilà la citation, c'est la sixième ode. C'est dans le feu du dernier jour que le Christ baptisera ceux qui lui désobéissent et qui ne croient pas qu'il est Dieu, mais c'est dans l'esprit que par le moyen de l'eau, il renouvelle par la grâce ceux qui reconnaissent sa divinité. Donc ça, c'est assez important. Le rôle du Saint-Esprit, c'est le renouvellement de la création. C'est assez important, ça, que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Par exemple, toute la conception de la relation de l'Église des Pères, l'Église orthodoxe avec la modernité, c'est exactement celle-là. C'est parce que nous avons cette conscience de l'action du Saint-Esprit que nous pensons que la tradition peut être continuellement renouvelée par l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin de faire des adaptations, des modernisations de l'Église, raccourcir le jeûne ou des choses comme ça. C'est des bêtises, excusez-moi. C'est pas ça du tout. Il s'agit de vivre selon le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est celui qui va renouveler en nous, par exemple, l'expérience du jeûne, par exemple, l'expérience de la confession, par exemple, l'expérience liturgique. Enfin, il est celui qui renouvelle. Et ça, c'est dit justement dans l'office de Pentecôte. La Pentecôte appelle l'Esprit Saint, celui qui renouvelle. Et il renouvelle tout, le ciel, la terre, toute la création. C'est très, très, très important. C'est pour ça que, si vous voulez, un christianisme qui ne donne pas sa place au Saint-Esprit est forcément limité, forcément dans une impasse, est obligé de faire autre chose. C'est un petit peu le problème de certaines communautés chrétiennes qui se croient obligées de moderniser à chaque génération, de s'adapter, changer les offices, changer les rites. Ah oui, mais ça, c'est plutôt un aveu de carence pneumatologique. Bon, donc là, on va changer une petite pause, parce qu'on change. Voilà, alors, donc, je suis sur cette conférence sur l'Esprit Saint dans les fêtes chrétiennes. Je pensais arriver au bout de la première heure, mais finalement je vais prolonger dans cette deuxième heure. Et pour conclure avec tant pis, les deux cours se suivent. Pour conclure avec ce que nous disions sur la théophanie, c'est le baptême du Christ, M. Andronikov souligne le contenu dogmatique quand même de cette fête, parce que c'est par exemple dans la dans cette célébration de la théophanie qu'est affirmée clairement la question de la procession du Saint-Esprit. Donc vous voyez, au fond, dans l'Annonciation, même si le Saint-Esprit a une place apparemment discrète, finalement la fête affirme son égalité d'honneur et de gloire avec les deux autres personnes divines. Et dans la théophanie, même si l'Esprit Saint est caché derrière ses dons, effacé derrière ses dons, il y a quand même une affirmation dogmatique très très claire qui est là, sur la sixième mode du canon, c'est donc la procession du Père. Et voilà le texte, la sixième mode, l'initié, c'est-à-dire celui qui entre dans le chemin spirituel par la liturgie, voit l'Esprit avec un grand E, qui est issu du Père, ou qui procède du Père, selon les traductions, et qui demeure dans le Verbe, descendant comme une colombe. Ça, c'est très important. Je vous recommande, c'est un petit volume que j'utilise un peu, qui s'appelle le Spoutnik, dans lequel on a un peu un résumé de toutes les fêtes de l'année. Donc, je vais essayer de retrouver au 6 janvier le... Voilà, 6 janvier, Ode, on a dit, pardon, Ode 6. Oui, mais il a abrégé malheureusement. Il ne donne pas tout. Il ne donne pas tout le canon. Donc il faudrait avoir le. Je n'ai pas apporté le Pentecoster. Hein. Il faudrait avoir le Pentecoster. C'est dans le Pentecoster que vous trouverez cette citation, hein. L'initié voit l'esprit qui procède du Père et qui demeure dans le Verbe descendant comme une colombe. Donc ça c'est très important, c'est vraiment l'affirmation dogmatique qui correspond à la partie du credo d'ailleurs, hein. On dit, nous croyons dans l'esprit, et en l'esprit, le Seigneur, le Saint, le Seigneur, le vivifiant, qui est issu du Père ou qui jaillit du Père. Donc ça c'est la citation de l'évangile selon saint Jean, c'est le Christ lui-même qui a dit ça quand même, hein. L'enseignement du Christ dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 13 ou 14, je ne sais plus. Voilà. Et dans ce même canon, il est dit, que le Christ baptise par l'Esprit, c'est assez important, ça veut dire que le Christ dit ça... Il est dit du Christ plutôt cela, que le Saint Jean-Baptiste baptise dans l'eau, mais que le Christ baptise dans l'Esprit. Et effectivement, c'est repris dans le texte liturgique, le Christ baptise par l'Esprit pour la vie éternelle, et il oint par la communication de l'Esprit l'essence mortelle pour la rendre parfaite. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de même que l'Esprit au fond repose sur le Christ, et puis de même, c'est-à-dire symétriquement, le Christ nous plonge dans l'Esprit, nous donne l'Esprit, ou nous donne à l'Esprit, nous fait vivre dans l'Esprit. Ça c'est important, finalement, dans les deux fêtes liturgiques qui ont la même caractéristique, et nous montrent la réciprocité du Verbe et de l'Esprit. Bon. Dans cette même fête, d'ailleurs, il est encore souligné le caractère consubstantiel, hein, de l'Esprit Saint. Et c'est dit aussi à la fin des strophes des laudes. Vous savez comment sont faits les offices, donc il y a les parties fixes, par exemple les psaumes laudiques, et puis des stickers qui sont intégrés là-dedans et qui ont justement un contenu dogmatique. C'est une de ces strophes, un de ces stickers des laudes qui dit ça, qui dit que le Christ reçoit d'en haut le témoignage de l'Esprit consubstantiel. C'est qu'il affirme le caractère personnel et également glorifié de l'Esprit. Alors, le troisième exemple que prend le professeur Andronikov, c'est la fête de la Transfiguration, que vous connaissez parfaitement. Donc c'est une fête qui est un peu symétrique d'ailleurs de la théophanie, qui lui ressemble beaucoup. Enfin, d'abord elle est le 6 août, l'autre fête est le 6 janvier, c'est un petit peu, je ne sais pas si on prend le cycle liturgique, ces deux fêtes sont d'une certaine façon presque symétriques, non? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 8 mois, et dans le sens, août, septembre, octobre, novembre, Décembre, janvier, ça fait que 6 mois, oui, non, c'est non. Donc c'est pas exactement au milieu, hein, mais on a un petit peu l'impression quand même que l'année, l'année liturgique porte en symétrie ces deux fêtes. C'est pas tout à fait le cas, mais un peu. Bon, en tout cas, ces deux fêtes ont beaucoup de points communs, en particulier, on y entend, vous savez très bien, dans l'évangile qui est lu, la même parole. Écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé, etc. La même parole est dite par le Père et au moment du baptême et dans l'événement de la transfiguration. Alors, Constantin Andronico, à propos de cet office de la transfiguration, fait remarquer que l'Esprit n'est nommé que 6 ou 7 fois, c'est-à-dire très peu, et de manière assez discrète encore. Hein. Donc, il est question tout de même de la grâce de l'Esprit. Par exemple, dans un des ex-apostilaires, c'est-à-dire c'est le verset qui est chanté à la fin du canon, entre le canon et les laudes, il parle de Dieu, il dit la lumière qu'est l'Esprit. Donc l'Esprit est appelé lumière. Enfin, ça ne désigne pas sa présence hypostatique, c'est une manière de désigner ses énergies, une fois de plus. Hein. Mais, voilà, parce que j'oublie la suite, peut-être. Il insiste beaucoup, c'est la question de la lumière, si vous voulez. Bien sûr, les théologiens comme Saint Réwa Palamas, ça vous devez le savoir, ont interprété la lumière taborique, hein, c'est-à-dire la lumière qui émane du Christ, comme justement la présence du Saint-Esprit ou des énergies du Saint-Esprit en lui. Donc c'est vrai qu'on a, mais ce n'est pas dit, si vous voulez, c'est pas explicitement formulé. C'est notre foi, c'est notre façon d'écrire l'événement sensationnel qui a aveuglé absolument les trois apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et donc il est dit ça, par exemple, dans la litie, c'est que la litie est un office très beau, un office de supplication qu'on dit généralement au milieu des grandes vêpres. Donc c'est l'office pendant lequel on bénit du pain, du vin et de l'huile et des graines aussi. Et 5 pains on bénit. Et donc il y a des strophes qui sont très très belles, qui généralement développent le sens de la fête. Alors dans une des strophes de la litie, on a cette citation-là à faire. Le Christ nous fit voir en ce jour, sur le mont Tabor, une mystérieuse image de la Trinité. Bon. Donc, l'expérience du Tabor est présentée comme une expérience trinitaire. Alors, le Christ est le Fils. Le Père, on a vu qu'il s'exprime. Et où est l'Esprit? L'Esprit se manifeste comme lumière. Ça veut dire donc, d'après cette phrase-là, l'Esprit Saint serait quand même visible dans la transfiguration. Alors, il y a la voix du Père, la présence physique du Fils, et le troisième signe divin, c'est effectivement la lumière sur lesquels les textes insistent dans toutes les parties de l'office. On pourrait dire que la célébration de la transfiguration, c'est une célébration de la lumière. Je pense pas que c'est pour ça qu'elle est au mois d'août. Il y a pas vraiment de raison, puisqu'en fait, le 6 août, la lumière décline déjà fortement. C'est une fête de la lumière. Vous savez que chronologiquement, le Christ est transfiguré devant les apôtres avant sa passion. Hein. Mais liturgiquement, cette fête est placée en fin de cycle liturgique, pratiquement, comme couronnement, en fait, de toute la manifestation du Fils. Et juste avant l'autre fête qui conclut définitivement, je pense, le cycle liturgique, qui est la dormition de la Mère de Dieu, qui est la transfiguration de l'humanité dans la Vierge aussi. Donc, ils font deux fêtes de transfiguration qui se trouvent à la fin du cycle liturgique et qui montre que c'est ça le but de l'incarnation, le but de toute l'économie divine a comme but la transfiguration sous ces deux aspects, d'espèce, soit du Dieu homme, soit de l'homme, de l'humanité divinisée, qui est la mère de Dieu. Voilà. Donc, le mot lumière dans l'appel à la transfiguration désigne l'esprit, enfin, les dons, l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la gloire aussi. Ce qu'on appelle la gloire, c'est le rayonnement de la divinité. Or, ce rayonnement de la divinité se fait justement par les énergies incréées, par les énergies du Saint-Esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs que le professeur Andronikov cite cette phrase du Christ dans le chapitre 14 de Saint Jean, au verset 14 aussi d'ailleurs, quand le Christ dit « L'Esprit de la vérité me glorifiera ». Donc on voit bien, c'est un revient à ce que je disais déjà tout à l'heure, que le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de se révéler lui-même, mais c'est de révéler le Fils ou de révéler le Père. Il est essentiellement l'esprit de la glorification. Alors quand on dit la bénédiction de l'apôtre Paul que nous avons conservée dans la liturgie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, ce qu'on dit dans chaque célébration de la liturgie, comme vous savez, en fait le mot « communion », il ferait l'interpréter comme luminosité. La communion du Saint-Esprit, c'est en fait la lumière qui nous fait nous voir les uns les autres, qui nous fait voir le Père et le Fils dans le Père et le Père dans le Fils, il nous fait nous voir les uns les autres en Dieu. C'est très intéressant, ça on ne le dit pas toujours, ça on ne le dit pas souvent. C'est une communion dans la lumière, c'est une lumière communion, une communion de lumière. Et ce sera porte donc c'est pas la luminosité du Saint-Esprit, mais c'est la révélation lumineuse par le Saint-Esprit qui est la base de la connaissance. Oui. Et alors, monsieur Andronikov emploie un mot, il crée un mot qui est la photologie. Photos comme fausse, c'est la lumière. Alors, la photologie serait la théologie de la lumière, en quelque sorte, ou la définition de la connaissance, principalement. Mais en même temps, il dit bien que cette lumière n'est pas uniquement pneumatologique, parce qu'elle est toujours exprimée, ou vue, ou contemplée, ou glorifiée dans le cadre trinitaire. Parce que l'Esprit Saint, même s'il est celui qui révèle, il n'a pas le monopole de la lumière, parce que le Fils aussi est lumière. Le Fils est appelé lumière, c'est presque un des noms du Fils. Et le Père est appelé Père des Lumières. Donc le nom, c'est presque un nom divin, le nom de lumière est donné aussi bien au Père qu'au Fils qu'à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas le monopole de la lumière. Enfin, dans ce contexte de la transfiguration, c'est vrai que le mot lumière est employé plus pour lui quand même. Alors, ici, c'est très très beau, c'est encore l'exapostillaire, c'est ces versets qui sont répétés justement donc entre le canon des matines et les laudes des matines. Voilà le texte qui est super, super beau. Lumière du Père, ô Verbe, dans ta lumière, nous avons vu au Tabor la lumière qu'est le Père et la lumière qu'est l'Esprit, illuminant toute créature. Alors, je peux vraiment rien vous dire de mieux, rien vous citer de mieux que ça. Est-ce que je vous le relis peut-être pour le bonheur? Lumière du Père, ô Verbe. Dans ta lumière, nous avons vu au Tabor la lumière qu'est le Père et la lumière qu'est l'Esprit, illuminant toute créature. Donc, le Verbe est appelé lumière du Père, mais le Père est appelé lumière. Et l'Esprit est appelé lumière, et le rôle de l'Esprit, c'est d'illuminer. L'Esprit illumine, on va dire, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait même le monopole de cela, parce que le Verbe illumine aussi. Mais quand il illumine, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Vous savez, il faut faire un petit peu attention toujours au fait qu'il n'y a jamais de séparation du Verbe et de l'Esprit. Donc il ne faut pas s'étonner que quelquefois on dit, ah ben, le Christ illumine ou qui illumine par le Saint-Esprit, ben oui, parce qu'en fait, il fait tout avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. De même que l'Esprit ne fait rien sans le Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'un des signes de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est le fait que nous confessions Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. la relation du Verbe et de l'Esprit, c'est entre autres une relation de comment dire, une réciprocité de témoignage. Réciprocité de témoignage. Bon. Alors, il y a beaucoup de versets après ça, vous voyez, dans le Lucernaire. C'est-à-dire, le Lucernaire, c'est le psaume des vêpres, hein, qui est Seigneur, écoute, j'écris vers toi, écoute-moi, vous savez. Lucernaire, on a le verset, la voix du Père sort de la nuée lumineuse. Dans la litie, on a toi qui as sanctifié l'univers entier par ta lumière. Dans la litie encore, on a tu purifies le monde de sa transgression, purifie-nous de toute souillure. Illumine-nous par la lumière de ta connaissance. Alors donc, vous voyez, alors dans la litie aussi, il y a ce passage qui est très important, qui nous montre bien aussi la place du Saint-Esprit, mais qui joue une place trinitaire. De toute façon, c'est un petit peu normal. Même le Père céleste, nous ne le glorifions jamais seul. Notre foi est une foi trinitaire. Quand nous voyons le Père, nous pensons au Fils et à l'Esprit. Quand nous voyons le Fils, nous pensons au Père et à l'Esprit. Quand nous voyons l'Esprit, nous pensons au Fils et au Père. Enfin, c'est indissociable, puisque ce ne sont pas trois dieux. Hein, ce sera pour renvoyer au cours de dogmatique qui parle justement sur la théologie trinitaire, parce que je fais les deux successivement, ça va bien ensemble. Nous ne sommes pas trithéistes, hein. Nous ne sommes pas polythéistes, nous confessons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu unique. Hein. Donc ils sont indissociables, on passe toujours de l'un à l'autre. Hein. Pour ça, voilà cette citation dans le litie, la voix du Père retentit dans la nuée. Voici le Fils bien-aimé que j'ai engendré dans mon sein, l'Esprit immatériellement avant l'aurore. Je l'ai envoyé sauver ceux qui seront baptisés dans le Père et le Fils et le Saint-Esprit et qui confesseront avec foi que l'unique puissance de la divinité est indivisible. Mais en fait, c'est lié, si vous voulez, à cette théologie de l'Église qui dit que l'Esprit est issu du Père et qu'il irradie ou resplendit du Fils. C'est ça que la Transfiguration exprime à beaucoup d'égards, vous voyez. Et il conclut un petit peu ça, oui. L'Esprit révèle aussi bien le Fils que le Père par le Fils. Oui. Bon, alors, donc, tout ceci pour conclure un petit peu là-dessus. Oui, c'est dans sa conclusion, la conclusion de ce chapitre, que le professeur Andronikov revient justement sur le fait que le don du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, le règne en fait du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit comme royaume, est vraiment le but du Christ, hein, dans son incarnation et dans toute son économie. Vous voyez, donc il fait allusion, il cite quand même une phrase qui est très intéressante, qui est une phrase de Saint Athanase, donc c'est très ancien, ça veut dire. Premier siècle, à l'âge d'or des pères, on était bien conscient de cela, Satanas disant, le Verbe s'est incarné pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Alors, c'est important, vous voyez, donc les pères anciens avaient cette conscience que le but de l'incarnation, c'est ça, c'est que l'homme puisse participer à l'Esprit, que l'incarnation n'est pas une fin en elle-même, mais qu'elle a un but pneumatologique. Hein. Saint Simon, nouveau théologien, dit ça également dans l'éthique 5, hein, le but de toute l'œuvre de notre salut par le Christ est que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Saint Nicolas Cabasilas, au XIVe siècle, ça c'est sur la divine liturgie, quel est l'effet des actes du Christ? Rien d'autre que la descente du Saint-Esprit sur l'Église. Donc, oui, c'est important, les théologiens orthodoxes, très anciens comme Saint Athanase ou plus récents comme Cabasilas, Alors, bien cette conscience que le but, c'est quand même cela, hein, vous voyez. Et il cite aussi Saint Basile. Hein. Saint Basile, vous savez, Saint Basile de Césarée a écrit un très beau texte sur le Saint-Esprit, qui s'appelle, oui, sur le Saint-Esprit, bon. Et voilà ce qu'il dit. C'est très intéressant, ça. Vous allez voir, c'est très beau, très Saint Basile, pour montrer justement la place du Saint-Esprit dans l'expérience de l'Église. Et Saint Basile écrit quand, sous l'influence d'une puissance illuminatrice, on fixe les yeux sur la beauté de l'image du Dieu invisible, et que par elle on s'élève jusqu'au spectacle ravissant de l'archétype, l'esprit de connaissance est là, inséparablement présent, offrant en lui la force de voir l'image à ceux qui aiment regarder la vérité. Il ne la fait pas découvrir du dehors, mais il amène à la reconnaître en lui. Donc l'Esprit Saint est le lieu, en quelque sorte, où sont reconnus, sont vus et sont connus le Père et le Fils. C'est-à-dire qu'il est royal, l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est vraiment pas une personne subordonnée. C'est toujours la même expression, hein, le don de la lumière. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et Saint Basile cite ça justement. C'est le psaume 35, verset 10. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. C'est-à-dire, ajoute Saint Basile, que dans l'illumination de l'esprit, nous verrons la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est très curieux cette histoire-là. C'est difficile à décrire. Parce qu'on peut dire dans l'évangile selon Saint Jean, il est dit, la lumière brille dans la ténèbre ou dans les ténèbres. C'est vrai que nous, par exemple, nous avons plutôt l'impression de ça. Nous pensons que nous allumons quand il fait noir. Quand la nuit est tombée, nous allumons les lumières. Mais là, il ne s'agit pas de ça du tout. Le Christ est une lumière allumée dans la lumière. C'est une lumière qui brille en plein jour. Pour comprendre les choses, l'Esprit Saint, c'est comme si toute comparaison étant relative, hein. Et disons qu'il fait jour et qu'en plein jour, on allume la lumière. Alors les gens disent, mais éteins la lumière, tu vois bien qu'il fait jour, ne gâche pas l'électricité, t'as vu le prix qu'on paye, t'as pas vu les factures qu'on a à la fin du mois, etc. Mais en fait, ça dit ça, c'est allumer l'électricité en plein jour. Et c'est plus que ça, parce que finalement, c'est dans la lumière du jour que la lumière qu'on allume est vue. Donc c'est tout à fait différent, ça. C'est incompréhensible tout ça. Nous sommes habitués à voir la lumière sur fond d'obscurité. C'est sur l'obscurité que se détache la lumière, parce que pour nous, la lumière, c'est en antithèse avec les ténèbres, comme les ténèbres sont en antithèse. Nous avons une vision conflictuelle au fond de la lumière et des ténèbres. La lumière n'est pas absolue pour nous, c'est une lumière qui éclaire. S'il n'y avait pas cette lumière-là, on ne verrait rien. Eh bien, le mystère trinitaire n'est pas cela. Le mystère trinitaire, c'est une lumière qui brille dans la lumière. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui permet, c'est ça qui explique aussi, si on revient à la fête de la Transfiguration, Saint Grégoire Palamas dit, il a sa façon à lui de dire les choses, et il dit que les apôtres ont pu voir la lumière qui irradiait du Christ parce que l'Esprit Saint transfigurait leurs propres yeux et les rendait capables de voir cette lumière. Donc c'est une façon à lui de dire les choses. Il a rendu les yeux des apôtres aptes à percevoir la lumière. Mais si on prend, si on revient sur ce qu'on est en train de dire là, sur ce que dit Saint Basile, par exemple, et sur ce fameux verset des psaumes qu'on n'a jamais remplacé par mieux, dans ta lumière, nous verrons la lumière, ça veut dire que, en fait, l'Esprit Saint a donné aux apôtres la lumière pour qu'ils puissent voir la lumière. C'est dans la lumière qu'il leur a donné qu'ils ont vu la lumière. Et la lumière qu'ils ont vue dans la lumière qu'ils ont vue dans la lumière qu'il leur avait donnée, c'est la lumière du Fils qui est lui-même Fils de la lumière, puisque le Père est la source de cette lumière. Donc c'est l'expérience trinitaire qui est indicible. Pas uniquement parce que nous sommes mauvais en théologie, que moi j'y connais rien, que je ne suis pas un spécialiste, c'est pas uniquement ça, c'est qu'en soi, c'est impensable, parce que c'est tellement différent de nos façons de fonctionner. Nous vivons beaucoup, vous savez, nous avons une logique très binaire, alors il y a le bien et le mal, il y a la lumière et les ténèbres, il y a le chaud et le froid, il y a le sec et l'humide, bon. Nous vivons dans un système de dualité, mais Saint Maxime le Confesseur a bien parlé de ça. Il a dit, mais cette expérience de la dualité qui caractérise le monde créé, pas seulement le monde déchu, mais le monde créé, cette expérience de la dualité n'est pas le dernier mot de la connaissance. Et que le Christ est justement celui qui, par son incarnation, sa glorification, etc., permet de dépasser tous les pôles. Et en particulier celui-ci, vous voyez, quand on est en train de dire, quand on est en train de développer ce verset du psaume 35, on est en train de sortir, si vous voulez, d'une vision dualiste, conflictuelle, antithétique, qui est ce qui caractérise notre logique. Nous avons une logique antithétique, c'est vrai ou c'est faux, par exemple. Regardez, on est dans le système des élections. Alors, bon, les gens disent, ah, mais si on ne vote pas pour un tel, il faut qu'on vote pour une telle. Puis si on ne vote pas pour une telle, il faut voter pour un tel. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais alors, les gens qui disent, mais je veux ni l'un ni l'autre, hein, donc je m'abstiens. On n'arrive pas à surmonter cette antithèse politiquement pénible. On ne l'arrive pas. On ne peut pas voter pour les deux, quand même. Ça ferait beaucoup. Déjà, si on n'en a qu'un des deux, déjà, ça sera difficile à supporter. S'il fallait avoir les deux en même temps, je ne sais pas où on irait. Bon. Et puis, quand on les voit se parler à la télévision, c'est insupportable. C'est la honte. C'est la honte, parce qu'on s'aperçoit que... c'est des conflits absolument enfantins, qui n'ont absolument aucun intérêt, qui n'ont aucun rapport avec une véritable vision politique de la France. C'est une cour de récréation caricaturale, on en fait des bandes dessinées, c'est bon. Donc en fait c'est intéressant de voir que la logique humaine, si vous voulez, elle pourrait se résoudre que dans une réconciliation, avec des comportements de saints, de saintes personnes, qui diraient, écoutez, monsieur un tel, madame un tel, nous sommes faits pour nous entendre, faisons un gouvernement commun, disons à tous les Français de voter pour nous deux, et nous allons prendre en main tous les deux, vous madame et moi monsieur, nous allons prendre ensemble la France et nous occuper de ce pays. Mais ça, ce serait une vision chrétienne des choses, vous voyez. C'est-à-dire, ce ne serait pas un dépassement dialectique de la dualité, ce serait un embrassement. Ce serait un embrassement dans une grande intelligence, pas seulement dans de l'amour, mais dans une très grande sagesse, une très grande intelligence, disant, écoutez, je crois que nous avons à peu près tous les éléments, à nous deux, nous avons à peu près tous les éléments de la situation, et bien moi je vous propose, travaillons ensemble, chiche, massacre. Mais donc c'est ça, alors c'est là qu'on voit que la logique humaine, les situations humaines, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans les conflits, tout le temps, parce qu'on n'arrive pas du point de vue logique, et c'est pas uniquement à cause de nos passions qui sont très égoïstes, mais c'est parce que la logique humaine, si vous voulez, n'arrive pas à dépasser le fonctionnement antithétique. Alors ici, la pensée trinitaire est tout à fait autre. En Dieu, il n'y a pas d'opposition. Aucune opposition, il n'y a aucun conflit en Dieu, aucun. Vous voyez ? Notre Dieu n'est pas conflictuel. C'est pour ça que notre Dieu est un Dieu de paix. Il ne peut pas être un Dieu de guerre, parce qu'il n'y a pas de guerre chez lui. Il n'y a pas de guerre en lui-même. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que... qu'un amour qui dans la qualité consiste à révéler, à valoriser les autres. Enfin, l'amour véritable, c'est celui qui met en valeur les autres. Et c'est ça que le Saint-Esprit, vous voyez, il est celui qui met en valeur les autres. Et qui est mis en valeur par sa propre action de mise en valeur. On reconnaît l'Esprit Saint au fait qu'il éclaire les autres, qu'il fait briller les autres. Sans être pour autant la source de la lumière, puisque la source de la lumière, c'est le Père. Bon. Alors, je vais terminer peut-être là-dessus, parce que c'est vraiment très beau. Alors là, il y a plusieurs textes que donne M. Andronikov en particulier, plusieurs textes de Saint Grégoire de Nazianze, dont, enfin, si je vous les lis quand même, ces textes-là, ils sont quand même magnifiques, c'est dans les discours théologiques, le discours théologique 5. Hein, voilà ce que dit Saint Grégoire de Nazianze. Il dit « J'ai fini par me dire que le mieux était d'abandonner les images et les ombres qui sont trompeuses et qui demeurent trop loin de la vérité. Je préfère m'attacher aux pensées les plus conformes à la piété, c'est-à-dire la doctrine de l'Église, je pense, me contenter de peu de mots et prendre pour guide l'Esprit pour garder jusqu'à la fin la lumière que j'ai reçue de lui. » Fin de citation. Ou alors, après ça, c'est le même Saint Grégoire de Nazianze dit qu'il a compris, il est très intelligent évidemment, hein, il a compris qu'il fallait, citation, qu'il fallait s'avancer de clarté en clarté par des progrès et des poussées toujours plus brillants pour voir luire la lumière de la Trinité. Le Seigneur avait enseigné bien des choses, mais il restait certaines vérités dont les disciples, disait-il, ne pouvaient porter le fardeau. C'est une allusion à Saint Jean, chapitre 16. Il ne révélait donc pas, c'est par ça, il, c'est le Fils, le Fils ne révélait donc pas, mais l'Esprit enseignerait tout quand il serait venu parmi nous. Ça, c'est Jean 16, verset 13. L'un de ces mystères que l'Esprit doit ou devait ou devrait enseigner, l'un de ces mystères était, je crois, dit Saint Grégoire de Nazianze, je crois, la divinité même de l'Esprit. Ça, c'est un, donc, pour, tout le monde a bien compris la phrase, c'est que l'Esprit, donc le Christ, ne révèle pas, il dit, il fait, il montre, et l'Esprit doit venir pour révéler et enseigner tout quand il serait venu parmi nous. Et une des choses, le mot chose n'est pas approprié, pardon, un des mystères qu'il doit révéler, c'est lui-même, au bout du compte, la divinité de lui-même. Alors ça, c'est assez important, ça répond un peu aux questions que nous posions au début de ces cours, que l'Esprit Saint est toujours discret, on dit il ne se révèle pas mais il révèle les autres, enfin, c'est vraiment le bon petit garçon. Vraiment le prix de camaraderie sans problème. En réalité, c'est parce que c'est une dimension eschatologique de la situation, c'est que eschatologiquement le Saint-Esprit ne sera révélé qu'à la fin. Jusqu'à la fin, le Saint-Esprit joue le rôle de révélateur des autres. Il révèle le Père, il révèle le Fils, il nous éclaire les yeux pour que nous voyons le Fils transfiguré, etc. Mais c'est jusqu'à la fin. Mais à la fin, il se révélera lui-même. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en fait, là, ce qu'exprime le mystère liturgique, dans toutes ses nuances, ça veut dire que nos offices liturgiques sont admirablement bien composés, en réalité, vous voyez. Ils ne manquent de rien. Mais ils respectent absolument l'histoire, le déroulement historique, qui est donc la révélation suprême et définitive de l'Esprit à la fin des temps. Et je pense, je fais comme Saint Grégoire de Nazianze, je pense, je crois, il me semble que cette révélation suprême de l'Esprit coïncidera avec la venue glorieuse du Fils. Vous voyez, notre credo pourrait dire cela. On dit du Fils, bon, et il revient, et de nouveau, avec gloire, se présente tout ça, de nouveau, avec gloire, il vient juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin. Mais on devrait dire, on pourrait dire aussi du Saint-Esprit, et il se révèle, et il va se révéler. Vous voyez, ça marche ensemble. Je pense dire que le règne de l'expression, il règnera, et son règne n'aura pas de fin. Il ne s'agit pas d'autre chose que justement de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est justement ça. Le Saint-Esprit est celui qui fait régner le Christ, qui manifeste la royauté du Christ, et qui est en lui-même le règne de Dieu. Le Saint-Esprit est le royaume. Il s'appelle le royaume du Christ. Ça correspond à ce qu'on dit dans notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive ou vienne, elle fait. Ivasiliasu, qu'advienne ton règne. Cette advenue du règne n'est autre que justement la gloire de l'Esprit et la révélation finale de l'Esprit. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Ça montre tout ça, si vous voulez, que les prières liturgiques sont d'une densité, d'un sérieux magnifique. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à la liturgie. Faire très 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 attention, ne pas toucher à ce qu'on ne comprend pas, dire je ne comprends pas tout, je n'y touche pas, je comprendrai peut-être un jour, mais vous voyez, pas se permettre, bien entendu, de couper les prières, mais ne pas omettre les prières, ne pas les remplacer, ne pas les corriger, faire très 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 attention, et ce n'est pas par fétichisme, si vous voulez, que je dis cela, mais c'est simplement que souvent des personnes qui veulent réformer ceci ou cela, ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Qui ferait mieux de laisser à d'autres peut-être de le faire et de dire attends, je n'ai pas compris, peut-être que ceci me dépasse après tout, plutôt que de vouloir les réformer. Ça arrive, moi de temps en temps j'entends ça, des personnes qui disent oui, on devrait raccourcir ceci, raccourcir cela, les fidèles ne comprennent pas, ou les enfants ne comprennent pas, ou les prêtres ne comprennent pas, je ne sais pas, bon. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas compris quelque chose qu'il faut y toucher. Vous voyez, peut-être plutôt essayer d'avancer dans la vie de l'esprit pour être illuminé et comprendre le sens profond des choses. Les textes liturgiques ont été écrits par des personnes très 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 évoluées, vous voyez. Des gens très avancés. Quand on parle, oui, les gens qu'on cite ici, les saints Basile, les saints Gordonasian, saint Jean-Chrysostome, c'est des gens très évolués. Nous, quelquefois, nous sommes, bon, sans faire du misérabilisme, nous sommes quand même très petit par rapport à tous ces gens-là. Donc, faire très attention, parce que nous héritons des prières qu'ils ont écrites, et nous ne comprenons pas ces prières, nous comprenons très peu. Vous voyez. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est dit, ça c'est le père Serge Bulgakov qui dit ça, c'est très intéressant, je vous le lis, ça explique aussi dans le même sens, le père Serge Bulgakov, dans un livre qui s'appelle Le Paraclet, dont je vous recommande la lecture, c'est vraiment très intéressant. Bon, Serge Bulgakov, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas l'évangile. On n'est pas, comme tous les pères de l'Église, comme tous les théologiens, ils font ce qu'ils peuvent. C'est souvent très très bon quand même, hein, je suis sûr. Bon. Et dans le Paraclet, il y a des passages vraiment très intéressants. Il dit ceci, la face, suivez bien, c'est important, la face du Saint-Esprit. La face du Saint-Esprit. Ah. Bon, c'est une expression tout à fait métaphorique, parce que le Saint-Esprit ne peut pas avoir de face, vu qu'il n'est pas incarné, hein, mais enfin bon. C'est-à-dire le vis-à-vis, le Saint-Esprit comme tu, comme deuxième personne, c'est ça que ça veut dire. Quand on parle de la face du Saint-Esprit, ça, le fait que le Saint-Esprit puisse être celui à qui je dis tu, et pas seulement dans Roi Céleste Consolateur, mais dans d'autres circonstances, la face du Saint-Esprit reste voilée de mystère. Elle est inconnaissable, irrévélée en soi. Est-ce le mystère du siècle à venir, une révélation encore inaccomplie, telle l'ignorance de l'Ancien Testament quant à la révélation personnelle du Fils, l'apparition de la face du Saint-Esprit dépasse-t-elle ce que peut porter le royaume de la grâce, n'aura-t-elle lieu que dans le royaume de la gloire, ou alors ce silence provient-il du caractère propre du Saint-Esprit en tant que troisième hypostase. Je pense que les deux sont vrais, vous comprenez la problématique ici. Est-ce que le fait que l'Esprit Saint ne soit pas connu directement, est-ce que ça vient du fait qu'il n'est pas encore révélé, que la fin des temps n'est pas advenue, ou est-ce que ça vient du fait qu'il est comme ça, que c'est son caractère hypostatique? Donc voilà, la question vaut la peine d'être posée. Et le père Paul Forensky dit encore ça, il dit la connaissance, il ne peut pas en être autrement, il dit que la connaissance du Saint-Esprit donnerait un état pneumatophore total, hein, une divinisation complète de la créature entière, une illumination parfaite, alors l'histoire se terminerait, alors s'accomplirait la plénitude des temps. Ainsi que l'aigle, le visionnaire du mystère, avait été jugé digne de le voir, dans l'Apocalypse 10, alors s'achèvera le mystère de Dieu, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs et les prophètes. Donc vous voyez, la position du père Paul Forensky, c'est nettement que la révélation du Saint-Esprit est une illumination eschatologique, c'est le terme de tout, parce que c'est-à-dire que puis si c'est vraiment dans ta lumière que nous verrons la lumière, c'est quand nous serons devenus nous-mêmes complètement lumière que nous pourrons voir la lumière. Bon, donc ça marquera la fin des temps, il n'y aura plus rien après. Donc vous voyez, l'intérêt de mon exposé, si vous voulez, mais de cette présentation que je vous fais des textes du texte du père Constantin Andronikov, c'est de montrer que les textes liturgiques des grandes fêtes en particulier sont vraiment porteurs d'un enseignement dogmatique extraordinaire. Ils expriment vraiment la doctrine de l'Église, exactement comme le credo lui-même, et en particulier, en ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, donc la doctrine du Saint-Esprit. En fait, que l'Église confesse le dogme pneumatologique, elle le confesse vraiment par ses textes liturgiques. Alors, je voudrais prolonger un petit peu pour conclure cette heure, en disant que la doctrine pneumatologique et le contenu dogmatique des offices en ce qui concerne l'Esprit Saint n'est pas le fait uniquement de ces trois grandes fêtes. Je l'ai dit tout à l'heure en commençant le premier cours. Ça concerne tous les dimanches de Pentecôte. On peut les reprendre l'un après l'autre si on avait le temps, c'est ce qu'on ferait. Tous les évangiles des dimanches de Pentecôte s'interprètent du Saint-Esprit. Ça, on peut le montrer facilement. Deuxièmement, ce qui est à dire dans ce domaine, c'est que ce ne sont pas seulement les textes liturgiques que j'ai cités ici, les tropaires, les stickers, les exapostillaires, les toutes ces compositions patristiques qui sont dans nos offices, dans les canons en particulier des fêtes, mais ce sont les lectures, hein, et pour nous, si nous cherchons la théologie du Saint-Esprit dans les fêtes citées ici, donc on a théophanie, transfiguration et annonciation, et pour chercher la théologie du Saint-Esprit également dans les textes qui sont lus, les textes bibliques qui sont lus pendant les grandes vêpres, hein, et pendant les grandes vigiles, quand il y a, par exemple, je crois que c'est pour la théophanie, il y a un nombre de lectures extraordinaire. Cette théophanie, il y a 12 lectures, je vais vous le redire. Il y a 13 lectures, ça ira. Il y a 13 lectures quand même pour la fête de la théophanie, des lectures qui sont dans la partie avant la liturgie. Voilà, c'est étonnant, ça. C'est étonnant. Donc ça veut dire qu'il y a une richesse scripturaire énorme. Puisque la liturgie est prévue, ici, je vois. Ça peut être la liturgie de Saint-Basile. Les grands verbes sont continus avec l'épître et l'évangile sur la liturgie de Saint-Basile. Mais c'est pas obligatoire. Mais enfin, en principe, quand même, on fait ça. Donc la liturgie de Vigile, comme pour Pâques, c'est une liturgie de Saint-Basile. Enfin bref, sans entrer là-dedans, il y a 13 lectures dans l'Ancien Testament prévues ici, vous voyez. Et donc il faut lire, il faut s'intéresser aux lectures des évangiles évidemment, l'épître également, bien entendu, Donc ça, c'est assez important. Le contenu dogmatique, il est dans les textes scripturaires. Hein, bon. Et puis, donc, à ce qui est dit par M. Andronikov, je pense qu'il faut ajouter, dans les quelques minutes qui restent, juste pour conclure que les grandes fêtes du Saint-Esprit sont aussi des... Comment dire ? Les grandes fêtes christologiques sont des grandes fêtes pneumatologiques. Pour aller rapidement, une grande fête christologique est justement l'Annonciation. L'Annonciation qui est la fête de la conception du Verbe. Or, cette conception du Verbe, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est une glorification de l'esprit, puisque l'esprit donc apparaît dans ce qui est sa fonction fondamentale, qui est donc de donateur de vie, de vivificateur, de puissance génératrice du Père. Donc c'est vraiment une fête. L'Annonciation est une fête du Saint-Esprit. L'Annonciation est une fête du Saint-Esprit. Il faut le dire. Je dis ça à mes collègues excellents pour qu'ils pensent l'année prochaine, le 25 mars, à prêcher de cette façon-là, à dire. Aujourd'hui, mes amis, mes frères, etc., aujourd'hui, c'est une fête du Saint-Esprit. Les gens sont très, très étonnés parce que les uns pensent que c'est une fête de la Vierge, quelques-uns ont fini par comprendre que c'est tout de même une fête du Christ parce que c'est la conception du Christ, mais aucun n'a pensé que c'était une fête du Saint-Esprit. Bon, maintenant, si on revient un petit peu à la conséquence de cette fête-là, donc aux antipodes de cette fête, l'autre fête qui est un 25 également, qui est le 25 décembre, est-ce que c'est une fête du Saint-Esprit? Pas exactement, parce que demain c'est la nativité du Christ, c'est la maternité de la Mère de Dieu. Mais alors, où est le Saint-Esprit dans cette fête-là? Il est dans plusieurs endroits. Il est dans la luminosité du Verbe, qui est très nette sur l'icône, hein, qui est attestée aussi par l'étoile, effectivement, l'étoile qui guide les mages, cette lumière du céleste, cette lumière du Saint-Esprit aussi, vous voyez, qui guide les gens vers le Christ, qui conduit, parce que l'Esprit Saint est celui qui conduit l'homme au Verbe. Et ça, c'est vrai qu'on ne pense pas à dire ça, parce qu'on sait très bien que cette étoile n'était pas une étoile cosmique. Les étoiles, elles se comparent à la nuée qui a guidé le peuple de Dieu dans le désert. Et de même que la nuée a guidé le peuple de Dieu vers la terre promise, de même l'étoile guide les nations vers le... non pas vers la terre promise, mais vers le Seigneur promis. Donc ça, c'est... Là aussi, il faut prêcher le Saint-Esprit, il faut prêcher du Saint-Esprit à Noël. Bon. Et puis donc la luminosité, et il y a également la présence du Saint-Esprit par la célébration angélique. C'est sensationnel, Noël, c'est une fête qui nous donne des éléments liturgiques magnifiques. C'est dans cette fête-là que nous est révélée la grande prière angélique, qui est qu'on appelle la doxologie, la grande doxologie, qui est une des prières les plus anciennes dans le culte chrétien, gloire à Dieu au plus des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, etc., etc. Et dans cette grande doxologie, cette petite doxologie, est cité justement le psaume 35, dans ta lumière, nous verrons la lumière. Ah, c'est justement dans ce... Nous te rendons gloire pour ton immense gloire. C'est hallucinant, ça. Nous te rendons gloire pour ta gloire. Merci de dire merci. Mais c'est... Mais ce n'est pas une tautologie, c'est une triadologie, c'est ça qui est sensationnel. Bon, donc, après ça, les autres fêtes, mais bien sûr, Pâques. C'est Pâques est une fête du Saint-Esprit, je suis désolé. Ah, bien sûr, c'est la résurrection du Christ, mais le Christ est ressuscité aussi par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Père. Et bien sûr, il se ressuscite lui-même parce qu'il veut, il est dans dans l'unique volonté, c'est quand Dieu... Il n'y a qu'une volonté. Donc la volonté de ressusciter, elle est une. Ce n'est pas une volonté individuelle du Fils. Ce n'est pas une volonté du Père agissant sur le Fils. Vous voyez, c'est une unique volonté. La résurrection est une manifestation de l'unique volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. C'est dans ce sens-là une manifestation trinitaire. Hein, c'est le consentement absolu de la divine Trinité qui se manifeste dans la résurrection, mais en tant que puissance de vivification, de celui qui était mort, qui devient vivant, à la puissance de vivification, c'est l'Esprit Saint, justement. Alors, il n'apparaît pas comme hypostase, là encore, il apparaît comme puissance vivificante, il est vraiment le zopion, le vivificateur, le vivifiant, il ne fait que ça, en vivifiant le Christ, quand même mort, le Christ est quand même véritablement mort, il n'était pas corrompu, il n'était pas décomposé, d'accord, mais n'empêche qu'il était quand même mort, il était mis au tombeau, il est rendu aux enfers, et tout ça. Donc c'est l'Esprit Saint qui est le vivificateur du Christ, vous voyez, et donc le Christ, quand il sort du tombeau, c'est pour ça qu'il est lumière, qu'il est lumineux, et qu'il est brillant, resplendissant, parce qu'en fait, il est rempli du Saint-Esprit, c'est un Christ transfiguré que les filles voient au jardin de Gethsémani, que là, Marie-Madeleine, quand elle le voit, oui, elle voit bien, elle voit des anges vêtus de blanc, tout est en lumière, l'Esprit Saint se manifeste comme lumière omniprésente dans ce jardin. Et nous avons gardé ça dans la liturgie, puisque nous nous habillons avec du blanc, tous les fidèles tiennent les cierges allumés, et ceci jusqu'à l'Ascension, s'il vous plaît. On met des fleurs blanches partout, on allume toutes les lumières, on ouvre toutes les portes, on met le maximum de lumière dans l'église, et on communique la lumière, on la porte à la maison, on la porte de Jérusalem en France en avion, enfin bon, tout ce quoi. Bon, c'est vraiment une manifestation, c'est une Pâque est une fête des lumières, et dans ce sens-là, est une fête pneumatologique, vous voyez, ça c'est vraiment, alors, par exemple, et ça, il faut le dire aussi. On ne pense pas à dire ça. Nous avons une vision beaucoup trop christocentrique, beaucoup trop christomoniste du salut. Alors, cette vision christomoniste n'est pas du tout celle que le Christ nous a appris à avoir. Ce n'est pas ça que le Christ a voulu. Le Christ nous dirige beaucoup plus vers une vision pneumatocentrique. Vous allez me dire, mais le Christ nous dirige vers le Père. C'est vrai. Le Christ, il dit, c'est ce que disent les apôtres. C'est cette chose, ce passage très drôle, les apôtres qui disent au Christ, montre-nous le Père et ça nous suffit. Bon, ben, effectivement, c'est ça très drôle parce qu'en fait, c'est tellement énorme de voir le Père que dire, montre-nous le Père et ça nous suffit, c'est assez amusant. Oui. Mais c'est vrai que le Christ, d'une part, il nous montre le Père, c'est vrai. Mais d'autre part, il est celui qui nous ouvre la vie de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il va faire de nous des personnes en qui l'Esprit Saint va régner, mais également des personnes qui vont régner avec lui. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est dit « Et nous régnerons avec lui dans sa gloire ». C'est assez intéressant quand même. C'est pas seulement le règne de l'Esprit, mais le règne des hommes dans l'Esprit, devenir citoyens du royaume, c'est quand même ça qui est promis. Et c'est ça donc le but du Christ. Donc la Pâque. Et alors l'autre moment, l'Ascension. L'Ascension, c'est pareil. Il est monté au ciel. Tu es monté au ciel en gloire, ô Christ notre Dieu. Tu as rempli de joie tes disciples. Connaissez notre Père. Cette gloire, cette joie, ce sont des signes du Saint-Esprit aussi. Vous voyez. Donc à chaque moment liturgique, les grandes, les douze fêtes de l'année, si vous voulez, cherchons. Pensons-y, faisons un nœud à notre mouchoir ou notre kleenex, pour y penser, ou marquons ça sur nos bretelles, enfin bon, pensons à contempler la présence du Saint-Esprit dans chacune des douze fêtes de l'année, vraiment. Vraiment, et là, ça, je crois que c'est, bon, ça, je suis content, c'est vraiment ça que je veux faire dans le cours de cette année, vous voyez, souligner la place du Saint-Esprit dans notre culte et dans notre vie liturgique. Le Christ est ressuscité. Voilà. Alors, j'ai toujours pas fait l'autre partie que je voulais faire. Mais ce sera pour la dernière séance. Voilà. Merci.